Je vais me limiter, on a pris un peu de retard, je vais essayer d'être assez bref. Alors, je vais noter quelques points que j'ai relevés sur les différentes interventions qui me semblent être des points de discussion. Alors, tout d'abord, lorsque Jacques a introduit le travail de l'ensemble et a indiqué ce que disait Brousseau sur les analogies. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'assez important qu'on retrouve lorsqu'on analyse le paradigme source-cible dont tu parlais. C'est-à-dire que lorsque c'est l'enseignant qui donne l'analogie à l'élève, ben la question qui se pose, c'est comment est-ce que l'élève interprète cette analogie. C'est-à-dire qu'il y a une couche supplémentaire qui est différente de celle de l'élève qui élabore une analogie, parce que l'élève qui élabore son analogie, vous voyez qu'il y a quelque chose de plus direct parce que c'est ancré sur une interprétation qu'il a produite, alors que lorsque c'est l'enseignant qui donne une analogie, il y a une espèce d'implicite qui est que l'analogie est interprétée par l'élève telle que l'enseignant la donne, et c'est là que bien sûr il y a des possibilités de se fourvoyer, c'est-à-dire que les interprétations que fait l'élève de l'analogie que donne l'enseignant ne correspondent pas à l'idée que l'enseignant s'en fait. D'accord, j'espère que je suis clair. Et de ce fait, bien entendu, il y a un espèce de décalage qui peut prêter à des déconvenues. Ensuite, sur l'intervention de Wanda Kaminski, on a retrouvé beaucoup de choses sur la question effectivement de ces analogies initiales, de ces analogies, de ces préconceptions et de leurs conséquences négatives, du fait d'imposer des analogies qui vont être trompeuses par certains aspects. Il y a quelques points que j'aurais voulu souligner. D'abord, il y a la question des analogies implicites, que je trouve que Wanda a un peu évoquée, mais pas complètement, je me serais assez volontiers référé ici au cadre de DICESA avec les primitifs phénoménologiques. C'est que lorsque on parle du raisonnement séquentiel, par exemple, et puis lorsqu'on a cette idée des deux ampoules dont l'une serait plus lumineuse que l'autre dans un circuit en série, on voit bien cette espèce de, on va dire, d'analogie dans laquelle c'est comme si le courant partait le matin avec toute sa force. Il en utilise un peu dans la première ampoule, ensuite la résistance lui en consomme encore, et puis donc il lui en reste moins pour la deuxième ampoule, et il va recharger les batteries une fois qu'il retrouve le générateur. Alors, vous voyez que c'est assez proche de l'idée qu'on a par exemple de ce qu'est le cycle du travail pour une personne, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, on prend des forces pour la journée, ensuite on se fatigue tout au long de la journée, et puis on a besoin de se reposer. Et ça, c'est typiquement des analogies inconscientes qui ont une très forte vertu explicative. Et je pense que ça recouvre assez justement les primitifs phénoménologiques de DICESA. Et puis, en règle générale, c'est question d'analogies initiales qu'on a besoin de débusquer, parce qu'il me semble qu'un aspect important, c'est aussi que lorsque l'enseignant ne fournit pas d'analogie, ça ne signifie pas que les élèves n'en font pas. D'accord ? C'est-à-dire que les élèves en font de toute manière, de manière sauvage, et des analogies implicites qui se fondent sur des catégorisations, vous voyez, assez générales, importées de la vie quotidienne, mais qui sont un support interprétatif. Et là, il me semble que dans les situations que Wanda a analysées, cela s'y conforme assez bien. Je me rends pas bien compte de ce qui explique la raison pour laquelle les condensateurs ne sont pas traités comme les lampes, d'où viennent là aussi, quelles sont les les interprétations cachées, mais ça mériterait d'être approfondi, et j'imagine qu'on peut trouver aussi des conceptions du condensateur qui expliquent les choses. D'ailleurs, j'ai remarqué que Vanda utilisait l'expression de dire que tant que le condensateur n'est pas chargé, c'est un trou dans le circuit.
Quand il est chargé.
Oui, d'accord. Mais en tout cas, l'expression du trou, c'est aussi une façon un peu de marquer ce continuum entre les concepts quotidiens et les concepts scientifiques. Et puis aussi, j'ai trouvé un peu étonnant finalement tous ces dessins que tu as montrés, parce que je ne me rends pas bien compte de l'intention des concepteurs de la brochure. Parce que j'ai l'impression que ce n'était pas vraiment une intention de faire apprendre la physique.
C'est pour les travailleurs électriciens dans le
oui.
bâtiment. Mais c'est aussi pour les larges publics. Hein. C'est
oui. D'accord, mais alors, du coup, c'est peut-être plus pour leur éviter de se mettre dans des situations de danger. Oui, et donc, c'est peut-être pas peut-être que c'est des analogies qui ont une intention autre que celle de faire comprendre des phénomènes physiques. Évidemment, ça enlève rien à leur limitation sur le plan physique, mais on peut comprendre qu'elles ont ici peut-être d'autres vertus, qui est elles sont un peu rassurantes d'une certaine manière, mais bien entendu, si l'objet est de faire apprendre la physique, on en voit bien les lacunes. Sur la partie où tu parlais du fait que très souvent les structures ne sont pas perçues, bon, ça paraît tout à fait essentiel. Et effectivement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est souvent occulté, c'est le fait que, en fait, l'intérêt des analogies, c'est aussi de faire construire une structure, et que si jamais les phénomènes qu'on observe justement de transferts analogiques négatifs ou d'analogies qui sont trop superficielles, c'est justement parce que les structures ne sont pas construites, et donc c'est le phénomène que tu citais sur les deux situations entre le travail du cambrioleur et l'autre situation, bon, ça montre qu'effectivement, lorsque c'est porté par les inférences quotidiennes, ça ne signifie pas que la structure est conçue. Et dans ce cas-là, il y a certaines analogies qui peuvent être vectrices d'une structure qui va être plus satisfaisante. Et donc, si les structures ne sont pas perçues, c'est parce que les concepts ne sont pas construits. Et donc, ça manifeste bien le besoin de faire développer ces concepts. J'aurais aussi peut-être, alors dans ce cas précis de l'électrocinétique, j'aurais pas été en mesure de le faire parce que je n'ai pas la connaissance, mais il m'aurait semblé intéressant, à chaque fois qu'on présente une analogie, de présenter à la fois ses limites et ses apports. C'est-à-dire que à chaque fois, on soulignait bien ce qui n'allait pas, mais ça me paraîtrait plus équilibré de dire quel type d'inférence est-ce qu'elle induit qui est conforme au phénomène physique, et puis quel type d'inférence est-ce qu'elle induit qui n'est pas conforme, parce que cet équilibre est important dans le sens où l'analogie a aussi la vertu d'être vectrice, porteuse de sens, et qu'en l'absence de toute analogie, parce qu'on a vu que dans certains cas elles sont juste implicites, produites par l'élève spontanément en dehors du cadre scolaire, et dans d'autres cas introduites par l'enseignant, mais dans les deux cas il y a le fait que ces analogies vont parfois recouvrir la notion que l'on cherche à enseigner et parfois s'en distinguer, et il me semble plus intéressant de faire cette balance entre ces différents aspects. Alors, ça c'était mes notes, mes réactions sur cette première présentation. Ensuite, sur la question de l'ethno-mathématique, alors je me suis demandé s'il existait une ethno-chimie ou une ethno-physique, et sinon pourquoi, c'est-à-dire de se demander qu'est-ce qui fait que ce sont les mathématiques qui ont été la cible d'une certaine façon de cette approche. Et donc c'est J'ai pas de réponse à proposer, mais ça me semblait intéressant de se poser la question. Et puis, je me suis également interrogé sur cette question des mathématisations implicites, c'est-à-dire le fait de repérer certains comportements, certaines activités et d'y voir des concepts mathématiques. Qui voit les concepts mathématiques? Qu'est-ce que ça veut dire d'être en mesure de les voir? J'ai du mal à situer la position qui est un peu implicite dans cette façon de procéder. Et puis la question de la pédagogie convergente, j'ai eu aussi quelques difficultés à la saisir. Sur l'intervention de Laurent Vivier, j'ai trouvé que effectivement c'était extrêmement appréciable d'investiguer ces notions de marquage, d'abstraction, d'hybridation et d'analogie naïve dans un cas précis et de voir ce que ça produisait. J'ai trouvé que les résultats étaient tout à fait intéressants et j'en ai partagé absolument l'analyse. J'aurais peut-être voulu, alors je vais chercher mon connecteur parce que je voulais vous montrer une ou deux diapos là-dessus, pour insister un petit peu sur les questions de marquage et d'hybridation et revenir dessus parce que ça me semble assez intéressant. Alors, pour la question du marquage, y a un exemple que je trouve assez parlant parce que ça permet de situer ce type de phénomène en fait très très répandu. C'est lorsque on dit je voudrais 3 cafés, un crème, un allongé et un serré. Combien ça fait de café ? Ça dépend, oui. Pardon ? Ah, il y a des puristes dans la salle, c'est ça ? Bon, donc vous en voyez combien ?
Ça dépend de ce qu'il me dit, si c'est le garçon de café ou si c'est le...
Oui, effectivement. Oui. Bon, en tout cas, vous voyez qu'il y a une ambiguïté parce qu'on est obligé de faire appel, je dirais, à d'autres indicateurs que cette simple locution pour savoir si on a ici commandé 3 cafés ou 6 cafés. D'accord ? Parce que le terme café peut désigner soit le café par défaut que l'on va nous servir lorsque on va dans un bar et qu'on dit « je voudrais un café ». Et ce café par défaut, c'est un espresso... ni serré, ni allongé, c'est pour ça qu'on considère qu'on peut le désigner par le terme café, et en même temps, c'est aussi un terme générique qui désigne une catégorie superordonnée dans laquelle on va intégrer toutes les boissons dans laquelle il y a du café, et de ce point de vue-là, le crème, l'allongé et le serré, ce sont des cafés. Alors, cette manière d'analyser des termes du lexique est en fait assez riche parce qu'elle permet de se rendre compte que selon le contexte, eh bien, on va parfois se placer à un niveau spécifique et parfois se placer à un niveau plus général. Et c'est extrêmement utile de noter le phénomène parce que cela permet de comprendre pourquoi la signification de ce qui est désigné va varier d'un contexte à l'autre. Cette notion de marquage peut s'appliquer dans des contextes assez divers. Alors, il y a un exemple que je trouve assez parlant, c'est lorsqu'on se met dans le cas des technologies numériques. Et que si vous regardez le texte qui s'affiche, c'est-à-dire quand je vous dis « prends le document du dossier sur le bureau, fais-en une copie et mets-la dans le dossier comptabilité, puis envoie-le à mon adresse personnelle. J'aimerais aussi que tu regardes le dossier des documents à trier, que tu jettes ce qui est inutile. Lorsque tu auras terminé, vide la corbeille, ferme les fenêtres et éteins. » Alors, ce texte, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que chacun de ces termes, en fait, a un sens matériel, enfin dans un environnement matériel, et il a aussi un sens dans un environnement digital. Et le fait même que ces deux significations coexistent conduit également à avoir un sens qu'on va appeler le sens non marqué et qui est un sens qui transcende le type d'environnement, c'est-à-dire que ça soit matériel ou digital. Alors par exemple, la notion d'adresse, le concept d'adresse, on se rend compte que ce concept d'adresse, si on le prend le sens matériel, le sens marqué, bien une adresse est géographique, d'accord ? Elle est associée à un lieu. Si on prend le sens digital, une adresse va être forcément électronique et associée à des serveurs informatiques. Mais si on s'intéresse au sens non marqué, et là c'est ce qui fait l'analogie entre ces formes d'adresse, eh bien, va émerger une notion plus générale de ce que c'est qu'une adresse. Alors, on peut essayer de la décrire un petit peu, mais en grosso modo, la notion d'adresse, sans doute une façon de bien pointer l'idée, c'est une manière d'atteindre. D'accord ? C'est-à-dire que on voit que l'aspect géographique est secondaire. Et que ce qui va être premier, sans doute, c'est le fait que de laisser une possibilité d'atteindre. De même, quand on parle d'un bureau, vous voyez qu'un bureau, le fait qu'il existe des bureaux informatiques et qu'il existe des bureaux matériels, ça indique que ce concept non marqué de bureau, ce qui fait la bureauité, entre guillemets, qu'est-ce que c'est, d'accord ? On peut, donc, c'est sans doute un espace d'activité. Et lorsqu'on dit « j'ai passé 2 heures à ranger mon bureau cet après-midi », vous voyez qu'on peut se placer au sens non marqué. Et je trouve effectivement que la situation qui a été choisie était excellente pour noter dans ce passage lié au passage de la base 10 à la base 7, les questions me semblait extrêmement judicieuse. Et puis sur la question de l'hybridation, c'est pas très facile à comprendre. Une manière de l'illustrer, c'est ce qu'on fait dans notre livre, eh bien, c'est dans un micro-monde qui s'appelle le micro-monde de Copycat. Et ce qu'on vous dit, c'est que dans ce micro-monde, en fait, il y a ABC qui s'est transformé en ABD. Il s'est produit un événement et ABC est devenu ABD. Et le petit jeu, c'est de savoir qu'est-ce qui est arrivé à d'autres chaînes de caractères. Alors, par exemple, à votre avis, qu'est-ce qui est arrivé à EFG ? Il est ? Oui, EFG est sûrement devenu EFH. D'accord ? Alors, lorsqu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on a importé du monde initial et qu'est-ce qu'on a laissé ? Alors, ce qu'on a importé du monde initial, c'est-à-dire du monde de ABC, c'est l'idée de successeur, d'accord ? C'est-à-dire que on a 3 lettres qui se suivent et on a un successeur, c'est-à-dire que le successeur de la 3e lettre est devenu a été remplacé par son successeur. Maintenant, si on va dans PQRS, qu'est-ce qui est arrivé à votre avis à PQRS? Alors, P.
Tu as dit la troisième lettre.
Oui, mais c'est moi qui l'ai dit, mais j'aurais pu. On imagine que je n'ai rien dit. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est que ABC est devenu ABD. Ah,
si on lit ici la dernière lettre plutôt que la troisième, alors ça donne une règle.
Ça pourrait être, par exemple, qu'est-ce qui vous tenterait? Alors, PQRT plutôt? Oui, ok, mais vous pourriez aussi... Oui, PQSS, si vous voulez. Oui. On peut faire beaucoup de choses. Hein. On pourrait faire aussi, si on veut, on pourrait faire... Oui, vous pourriez faire PQDS. Est-ce que vous voyez pourquoi on pourrait faire PQDS? Bien que personne ne le fait, aucun humain ne fait ça. Hein. Mais PQDS, qu'est-ce que ça serait?
La troisième lettre devient D.
La troisième lettre devient D. D'accord. Et dans ce... Alors, TKW, ça donnerait quoi? Oui, vous... Bon. Oui, si vous voulez aussi. ACE, ça donnerait quoi? Ou arithmécole? Oui. ACE, qu'est-ce qui est tentant pour ACE ici? Ah, les humains y arrivent. Enfin, je veux dire, il y a des propositions qui sont faites plus fréquemment que d'autres. Alors, est-ce que ACE...
Oui.
Alors, spontanément. Donc, pour l'instant, on fait spontanément.
Je suis recruté chez Apple, je vais faire des choses.
ACE, c'est quoi? Qu'est-ce que ça... ACG aussi, parce que ACG a l'avantage de respecter le fait qu'il y ait deux lettres d'écart à chaque fois. D'accord, il y a deux lettres entre A et C, deux lettres entre C et E, donc on peut être tenté de faire ACG. Ensuite, IIJJKK, qu'est-ce que ça devient? Oui, IIJJLL, vous voyez, vous n'avez pas très envie de faire IIJJKL. Pourtant, ça pourrait, si on dit que c'est la dernière lettre. Ensuite, XYZ, qu'est-ce que va devenir XYZ? Alors, XYK, c'est si on a une idée circulaire de l'alphabet, mais vous voyez que là, vous avez importé quelque chose de plus. Ok, c'est une possibilité, est-ce que vous en voyez d'autres? XYD, ok, c'est une forme de renoncement, mais qu'on peut comprendre, oui. Vous en voyez d'autres? Oui, c'est pas mal aussi. Alors, ça serait quoi, du coup? Très bien, c'était quoi, WYZ? Bravo, oui. Alors ça, c'est celle qu'on considère la moins hybridée. Parce que, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte que Z n'a pas de successeur. D'accord. Et en revanche, X a un prédécesseur. Et donc, comme Z n'a pas de successeur, comme on ne peut pas remplacer la dernière des lettres par son successeur, on va remplacer la première des lettres par son prédécesseur. D'accord. MMRRJJJ, qu'est-ce qu'on en ferait? Alors, quelles sont les propositions pour MRRJJJ? Alors, vous pouvez tout mettre, hein. Moi je fais l'animateur. Hein. Alors, des propositions? Alors, il y a une proposition, c'est 3K à la place de... 3J, est-ce qu'il y a une autre possibilité? C? Pourquoi des T?
Ça, c'est le mot pas dans un sens de M à R en sautant.
Ok, bon, moi, ce que j'avais en tête, c'était tout simplement 4J, d'accord? Parce que vous voyez que là, ce qui croît, c'est le nombre de lettres. Et donc, vous pouvez dire une lettre, deux lettres, et on remplace trois lettres par quatre... une lettre identique, deux lettres identiques, et ensuite, on a trois lettres identiques. Alors, si on prend un de ces exemples et qu'on le... Vous voyez le I, J, J, K, K, eh bien, on a comme ça plein de façons de faire d'hybridation, c'est-à-dire de faire rentrer plus ou moins le monde de ABC, ABD, dans le monde de I, J, J, K, K. Et chacune de ces propositions a sa logique, mais c'est une logique qui va être plus ou moins hybridée, c'est-à-dire plus ou moins empreinte de concepts spécifiques du monde de ABC.
ABC d'un ABD, on peut aussi lire conditionnellement s'il y a un B, la lettre qui suit est remplacée par un D ou elle est remplacée par son successeur.
Oui.
Ou s'il y a un AB, une chaîne AB, alors la lettre qui suit est remplacée par un D. Évidemment, sur les exemples que tu nous as montrés, ça produit peu de changements.
Oui, oui.
Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que ça, vous l'avez essayé avec...
Je ne sais pas ce que tu appelles essayer. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté ce que produisent les personnes, les humains.
Oui, voilà. Vous avez rencontré une interprétation conditionnelle. C'est-à-dire, s'il y a un B, la lettre d'après est changée en D ou est changée en son successeur.
Nous, on propose ce genre de choses. Donc la question, c'est à quel moment est-ce que ça se verrait?
Oui. Donc. Ça ne se voit pas du tout.
Oui, donc je...
Puisque vous avez... Manifestement, vous n'y avez pas...
Oui.
Vous n'avez pas proposé d'exemple qui...
Qui changerait... Ça. Non, il faudrait... Je pense qu'il faudrait imaginer un scénario où on le sollicite, hein, ça serait tout à fait intéressant. Et il me semble qu'effectivement, le fait de se... De considérer que l'hybridation, c'est un objet didactique, ça me semble extrêmement porteur et pertinent. Et je trouve que cette étude le montre très bien parce qu'on voit ce flottement d'un monde à l'autre entre les bases qui nous fait retrouver vraiment ces situations qui étaient ici dans un contexte beaucoup plus artificiel et beaucoup moins pertinente sur le plan de l'éducation. Donc voilà, c'en est tout pour ma réaction. Merci. En tout cas, c'était très intéressant.